Comment bien se diversifier pour le prochain bull run? Bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast et sur ce, bonne écoute.
Nous sommes en compagnie de beaucoup de gens. Alors, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Toujours utiliser l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Faites attention aux faux comptes qui circulent sur Instagram et les différents réseaux sociaux qui essayent de se faire passer pour nous, pour l'académie ou peu importe, qui essayent de vous scammer. On ne va pas venir vous demander de l'argent sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà, faites attention.
25 secondes.
Chronométrie, man, c'est fort.
C'était 25 secondes.
Pour le tout.
Pour le tout.
C'est bon.
Fort. On va faire prochain podcast.
All right, guys, donc, sur le dernier épisode, nous avons parlé sur comment, en fait, se préparer pour le prochain bull run au niveau financier. Peut-être créer des budgets, comment se préparer aussi financièrement après le bull run. Sur cet épisode, on veut plus parler technique. Quelles sont les choses qu'il faut regarder lorsqu'on se positionne en diversifiant dans un portfolio, lorsqu'on se positionne dans les marchés de crypto-monnaie et blockchain pour maximiser nos retours durant le prochain bull run que moi, selon moi, encore une fois, va être en 2024.
Donc, Roman, il a dit que c'est en 2024.
Ouais, bon, toute l'attention est sur toi, OK? Parce que dans l'académie, on a Sam's Brain, puis moi, je suis curieux, puis je pense que les autres personnes, ils sont curieux. Comment est-ce que tu es arrivé à choisir ces projets-là? Comment est-ce que tu as diversifié ces sphères-là? Puis ça va déjà donner un aperçu.
Pour ceux qui ne savent pas, nous avons une section qui s'appelle Sam's Brain dans l'académie.
Le cerveau à Samuel.
Le cerveau à Samuel, qui, à part Bitcoin et Ethereum, inclut 10 top projets. Prenez-le comme un indice des top 10 projets les plus performants, basés sur certains points spécifiques que Samuel lui-même a choisi.
C'est le SP10.
Que lui-même, il a fait toutes les analyses, les explications de chaque projet et comment il est arrivé à ce point. Donc, Samuel, question pour toi. Quand tu analyses un potentiel projet, quels sont certains points que tu regardes avant d'investir dedans?
Ben, par rapport à cette question que tu me poses, Roman, je pense que les gens qui nous écoutent...
Il faut dire une connerie.
Non. Je pense que les gens qui nous écoutent, autant les Canadiens que les Canadiennes, que les Français que les Françaises, que tout le monde peut apporte où ils sont dans le monde... C'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Et je pense que même si tu ne m'avais pas posé cette question, je serais quand même venu sur ce point-là parce que c'est un point fondamental. Si les gens veulent pouvoir justement aller chercher une meilleure expérience et une meilleure diversification pour atteindre justement potentiellement les buts qu'ils aimeraient atteindre. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'on prenne du temps pour venir élaborer.
Qu'est-ce qu'il va
dire? Toi, t'as compris ce que je peux dire? Je faisais la vidéo du politicien.
Ouais, ça je pensais.
Mais tu fais tout le temps bon, ça.
Le gars, il parle pendant 2 minutes, il dit rien, genre. Ouais. Non, mais blague à part, pour vrai, c'est un point important. Puis j'ai un peu fait ça comme dans le même principe du SP500. Tu regardes le SP500, c'est un indice qui vient chercher les 500 plus grandes compagnies. Mais moi, ce que je voulais, c'était justement, plutôt je voulais pas dire le US 30 qui vient chercher les 30 plus grosses compagnies. Mais moi, c'est le SB, Sam's Brain, le SB 12. SB 12, ouais, parce qu'il y a Bitcoin, 12. Ethereum, plus 10. Et en fait, le but, c'était vraiment de créer cette... Je l'ai déjà expliqué sur un podcast, mais je vais le refaire parce que pourquoi pas. C'est vraiment d'aller créer cette diversification. Pas juste, souvent, par exemple, on va avoir différents bons projets qui sont bâtis sur Ethereum. Mais tout est sur Ethereum. Moi, avec Sam's Brain, j'ai vraiment essayé. Bien sûr, il y a des projets qui sont bâtis sur Ethereum parce que purée, c'est le plus gros. Mais c'était quand même d'aller vraiment chercher cette diversification. Différents layers 1, différents projets donc, qui ont leur blockchain à eux, supply chain, metaverse, etc. Le but, c'était de vraiment créer un super filtre pour créer comme ce genre d'indice. Mais bien, vu qu'il n'y a pas d'indice, ben c'est le portfolio où on peut aller chercher cet équilibre-là sans commencer à être à gauche, à droite, sans commencer à être perdu dans tous les sens, parce qu'il y a tellement de projets qui peuvent avoir l'air intéressants. Tu viens et puis, tu rentres dans la crypto, il y a genre 70 projets qui ont l'air intéressants. Comment tu sais ce qu'il est ou pas? Comment tu fais pour... Tu sais, la personne arrive avec 1000 euros, bon, ben voilà, il y a 70 projets. Et comment c'est ridicule, là? Tu vas mettre quoi? 10 euros par projet? c'est complètement ridicule. Et c'était ça le but du Sam's Brain. C'est vraiment de créer ce filtre où... Bien sûr, il y a plus que 10 projets qui sont intéressants. Alors, même quand je l'ai créé, je le dis toujours, j'avais des gouttes de sueur qui coulaient parce que j'étais comme, merde, lequel j'enlève? Et c'est pas que ceux qui sont pas là sont mauvais. C'est juste que j'ai créé le filtre ultime pour qu'il y ait la chose la plus diversifiée avec le meilleur équilibre dans différents secteurs avec le plus de potentiel à long terme. Et c'était justement ça le but de Sam's Brain. Dans Sam's Brain, les gens retrouvent l'analyse fondamentale pour comprendre ce qu'est le projet et aussi l'analyse technique. Et puis l'analyse technique, ben, ça te permet vraiment de comprendre, OK, là, on peut prendre du profit de portfolio, là, on peut accumuler dans le portfolio, là, on peut faire un spot trade, les différentes zones d'entrée potentielle et de sortie potentielle, etc., etc. C'est littéralement, le nom le dit, Sam's Brain, t'es connecté à mon cerveau et à ce que je vois, et tu peux copier ce que je fais. Bien sûr, le but, c'est de copier avec les bonnes connaissances, mais c'est là, tu peux venir t'en inspirer. Tu vois, à l'école, si tu t'inspires ou tu copies, t'as zéro. Dans Sam's Brain, si tu t'inspires ou tu copies, tu gagnes des zéros. OK? So, c'est ça la différence. Dans le monde de tous les jours, à l'école, on t'a dit, yo, tu copies, tu t'inspires, zéro, plagiat. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est de venir t'entourer des gens qui ont les résultats que tu veux, d'aller chercher l'information que tu as besoin et viens t'inspirer, viens copier les gens qui ont les résultats que tu veux. Et là, au lieu d'avoir un zéro, comme j'ai dit, là, tu as des zéros. Moi, j'aime bien avoir des zéros. Alors, c'était ça aussi le but de Sam's Brain, d'aider les gens dans cette diversification de portfolio parce que c'est pas quelque chose qui se fait de façon nécessairement facile. Et comme je dis, il y en a plus que 10 projets intéressants. Mais déjà, si tu as Bitcoin, Ethereum, plus un top 10 qui sont les meilleurs Layer 1, Supply Chain, DeFi, Metaverse, etc., au moins tu sais que tu es dans quelque chose de solide. Et je me suis assuré aussi que la plupart de ces projets-là t'offrent du stacking, que tu puisses stacker. Certaines personnes ne savent pas nécessairement comment le faire, mais ça, bien sûr, on l'explique aussi dans l'académie, pour avoir du revenu de portfolio. Et ça, c'est important. Parce que quand on parle de diversification de portfolio, du prochain bull run, etc., le but, c'est du revenu de portfolio aussi. C'est ça le but. De la même façon que, par exemple, Warren Buffett se fait des centaines de millions avec les dividendes de Coca-Cola parce qu'il a ces actions-là. Ou, par exemple, quelqu'un qui a de l'immobilier a sa valeur de son parc immobilier qui grandit à chaque année, mais il a des locataires qui payent et donc de l'argent qui rentre. Mais tu peux avoir des locataires qui payent dans ta crypto pour avoir de l'argent qui rentre tous les mois de la même façon que ton locataire paye chez toi ou que tu reçois des dividendes parce que tu as un pourcentage d'une compagnie et tu es capable justement d'aller faire ces revenus de portfolio et ça, c'est magnifique. Même si c'est en général les bons projets, ça va être 0,5 à 1-2% max par mois. Mais dis-toi quelque chose. Même si on parle de 5 à 15%, donc environ 10% par année, c'est 10% par année que tu reçois en crypto sur un portfolio établi sans trader, sans pouvoir te faire stop loss, sans pouvoir te liquider et sans vendre, te faire liquider et sans vendre ta crypto, sans vendre ton portfolio. Ça veut dire que si tu as 100 Ethereum, je prends un chiffre rond, tu reçois 10 Ethereum par année.
J'aime ce petit chiffre rond.
Ouais.
Ouais, moi aussi.
Mais même si on dirait 10 Ethereum, et n'importe qui fait bien les choses pourrait, exemple, aller chercher un 10 Ethereum. Tu as 10 Ethereum qui montent en valeur. Mais chaque année, tu reçois un Ethereum parce que tu as de l'intérêt dessus. Tu n'as rien à faire, tu reçois. Et je dis chaque année, mais tu reçois, exemple, 0,01 ou presque 0,01 par mois. Et donc, en total, 1 par année. Et tu reçois ce 1 Ethereum par année. Là, c'est un peu plus bas. Là. C'est comme, en tout cas, 0,8 Ethereum ou 0,5, mais on s'en fout. Parce qu'après, tu peux prendre, par exemple, on va regarder un chiffron à 10%, ce 1 Ethereum, et l'année d'après, tu as 11 Ethereum. Et maintenant, tu fais de l'intérêt sur 11 Ethereum. Mais ce n'est pas juste ça, c'est que l'Ethereum que je t'ai donné, je ne te l'ai pas donné en argent. Je te l'ai donné dans un asset. Par exemple, quand Warren Buffett fait 100 millions de dollars avec les dividendes de Coca-Cola, il peut choisir de prendre cet argent-là et le remettre dans Coca-Cola s'il veut, mais il le reçoit en cash. Toi, tu le reçois en crypto. Ça, ça change toute la game. Ça veut dire que tu peux le remettre. Mais si tu as reçu un Ethereum cette année, comme ça, pur pourcentage, pur dividende de ton portfolio crypto, et tu reçois un Ethereum qui valait 1500, mais dans 5 ans, il vaut 5000, 6000. Les gens ne réalisent pas, tu n'es pas en train de faire 5% là. Tu es en train de faire 5% fois son potentiel. Tu es en train de faire 5% fois son potentiel. S'il fait fois 5, tu n'as pas fait 5%, tu as fait 25%. S'il fait fois 10 en termes de chiffres, tu as fait, oui, 10% en termes de crypto, mais monétairement, tu n'as pas fait 10%, tu as fait 10% fois 10 ou 10% fois 5, ce qui est, tu es en train de faire du 50% ou du 100% d'intérêt annuel quand tu revends cette crypto-là.
C'est merveilleux tout ça.
Et donc maintenant, quand on regarde à se préparer, par exemple, pour le bull run de selon moi, 2024, bien évidemment, il y a plusieurs points qu'on va regarder dans Sam's Brain. Il y a plusieurs points qu'on va regarder dans l'académie. Selon toi, pour ceux qui même ne font pas partie de Sam's Brain, qui n'ont pas accès et veulent faire leur recherche de leur côté, quels sont les points que toi, tu as regardés par rapport à ces projets qui sont expliqués dans le fond dans Sam's Brain?
Mais il y a trois points. En fait, je te dirais que par rapport à ta question, il y a certaines choses fondamentales à comprendre que tout le monde doit vraiment être capable d'illustrer pour avoir cette illustration qu'il fait dans ce...
Mais... On va dire qu'il y a 8 points. Quels sont les 2-3 top points qu'on peut discuter sur cet épisode?
Parce que...
Sinon, tu vas parler trop
longtemps. Ouais, c'est ça. Comme tu sais, que dans le module de l'analyse de projet, je pense qu'il y a comme quoi, 10 points. Et dans chacune de ces points-là, il y a des sous-points. Mais je dirais les trois choses primordiales que comme tu veux vraiment... Il y en a plusieurs, mais je te dirais là maintenant qui me vient en tête que tu veux regarder, c'est sûr que c'est l'utilité du projet. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce projet-là? Si ton projet, c'est genre... il sert à quoi? Je sais pas. Il sert à quelque chose.
T'as essayé de faire un exemple, mais ça n'a pas fonctionné. Hein?
Je sais pas. Il sert à quoi ton projet? Il sert à quelque chose. Il sert à quoi? À envoyer des cartes. Je sais pas.
À se faire Internet. Pump and dump.
Ouais. Alors, premièrement, l'utilité du projet. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il amène comme utilité à notre monde maintenant? En quoi ça améliore la vie de tout le monde? En quoi ça améliore une entreprise?
Comment ça règle un problème?
Comment ça règle un problème pour la plupart des gens? Tu vois, Bitcoin est venu régler un problème. Ethereum est venu régler un problème énorme. En fait, Ethereum a créé un problème que les gens ne réalisaient pas qu'il y avait. Tout le monde a fait comme « Oh shit, il y a un problème énorme !» Et il a dit « Yes, et je vais le résoudre. » Ils sont allés à un autre niveau. Ils ont montré « Regardez le problème !» Tout le monde a fait « Waouh, on ne l'avait jamais réalisé. Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça. Alors, mais tu regardes tous les projets, c'est ça qui viennent. Ils viennent résoudre des problèmes. Ils viennent résoudre une demande. Même des trucs comme Coca-Cola, tu vas me dire, ils résoutent quoi, Coca-Cola? Ils ont justement créé chez les gens comme les gens avaient un besoin. Je veux boire, j'ai soif, je veux du sucre. Ils sont venus donner à cette demande et même amplifier la demande. Mais c'est quoi l'utilité? Et ce qui est cool avec la crypto, c'est justement, c'est pas comme Coca-Cola qui vendent des boissons pétillantes, là. La plupart des bons projets crypto, ils amènent des grosses utilités, là, des trucs sérieux, là, des trucs super solides. Donc, tu veux regarder, c'est quoi son utilité? C'est quoi que ça amène dans le monde? C'est quoi que ça amène à moi? C'est quoi qu'ils font? Est-ce que ce qu'ils amènent aux gens comme solution, c'est quelque chose qui va encore être là dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il y a de la place pour l'évolution? Et surtout la compétition. Est-ce que ce qu'ils font maintenant pourrait... Ils sont en train de faire ça, mais n'importe quelle compagnie qui a un peu de fonds pourrait faire 2 fois mieux. Donc ça vient autour de l'utilité aussi. Les gens oublient de regarder la compétition. S'il n'y a aucune compétition, ce n'est pas si bon. Ça veut dire 2 choses. Soit tu es tout nouveau, bravo. Soit personne ne le fait parce qu'il n'y a pas vraiment de demande.
Ou soit tu es comme Meta qui a acheté tout le monde.
Ouais, c'est ça. Et sinon, après, quand on parle de l'utilité, la compétition, tout ça, je te dirais le deuxième point, c'est clairement la tokenomie. La tokenomie, c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur. C'est comme le plan financier d'une entreprise. Genre, c'est quoi son plan financier? Comment il évolue? Qui a investi dedans? Comment ils vont investir l'argent? C'est la tokenomie, ça le dit. Token pour jeton et nomie, économie. La tokenomie, ça le dit. C'est l'économie du projet. Purée, je pense juste ça, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça, le niveau d'importance de comprendre l'économie du projet. Donc, qui a investi dedans, l'argent, la quantité. La quantité. Est-ce qu'il y a une quantité limitée? Est-ce qu'il y a une quantité limitée de ce token-là? Mais est-ce qu'il y a une quantité... Est-ce qu'on peut en créer d'autres ou on peut pas? OK? Parce que des fois, vous allez voir, ben, présentement, il y en a 30 millions en circulation, mais il peut y en avoir jusqu'à 50 millions. Donc, il y en a 20 millions qui ne sont pas encore en circulation.
Si on peut aller même plus en profondeur par rapport à la tokenomie, exemple, je t'écoute en ce moment, puis j'ai dit, OK, ben, je vais analyser la tokenomie d'un projet, puis je me lance sur CoinGecko, je commence à analyser des différents projets, on va dire, je prends le top 50 pour essayer de savoir c'est quoi Sam's Brain. Et là, je regarde, il y a vraiment une différence dans l'offre, genre l'offre maximum. Je vois qu'il y a des projets avec seulement 10 000 jetons. Mm-hmm. Je vois des projets qui ont 1 milliard de jetons. Mm-hmm. Je vois qu'il y a des max supply à infini de jetons. Mm-hmm. Alors, selon toi, quels sont les points par rapport à ça qui vont me donner un red flag, par exemple, que je ne devrais pas m'y investir, et d'autres que, même si c'est ça, en fait, c'est quand même bon.
Mais c'est là où ça vient prendre une grosse... expérience, et où ça amène au troisième point que je vais parler pour pouvoir continuer dessus, l'équipe. Donc trois choses, si je reviens sur ta question juste après, c'est juste que j'allais y répondre en même temps, c'est l'équipe. Quelle équipe est derrière? C'est qui l'équipe derrière ce projet-là, avec qui ils travaillent et qui ils font affaire? C'est quoi leur expérience? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et là déjà, tu as trois points importants. L'utilité du projet avec sa compétition et son environnement en général, l'économie du projet avec ses finances, etc., et l'équipe derrière le projet et les gens avec qui ils travaillent. Trois points extrêmement importants. Et justement, pour répondre à ta question, par rapport à pourquoi il y en a un qui a 1 milliard et l'autre qui a 100 000 et l'autre qui a ci et l'autre qui a ça et l'autre qui a infini, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que le projet amène. Ethereum, c'est infini. Big deal. Parce que, et puis même avant, ils n'avaient pas de système pour brûler. Maintenant, Ethereum, ils ont un système de burning, ce qui veut dire qu'ils détruisent de l'Ethereum. Et dernièrement, dans la dernière année, ils ont détruit plus d'Ethereum que de nouveaux. Ce qui fait en sorte qu'ils sont dans un magnifique système où c'est déflatoire. Il y a plus d'Ethereum détruits que de nouveaux Ethereum en circulation.
Parfait. C'est seulement le dollar américain, c'était comme ça.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un système déflatoire qui est très bon sur le côté token. Et là, ça, c'est ce qu'il faut faire attention avec la plupart des cryptos. C'est qu'il y a deux côtés à regarder. Il y a le côté token en termes de token que j'utilise pour payer. Et il y a vraiment le côté utilité. Tu vois, par exemple, de l'Ethereum, tu t'en fous un peu qu'il se fasse brûler si tu veux juste l'utiliser. Tandis que si tu veux vraiment qu'il monte en valeur encore plus, ben là, le fait qu'il a une belle utilité et qu'il y en a qui se font brûler pour qu'il soit plus rare, ça vient faire un combo magnifique. Mais par exemple, il y a un projet là, pourquoi j'ai plus le nom du projet? Pour transférer de la crypto, je l'utilise souvent, cette blockchain-là, c'est sûr que vous l'avez en tête. Elle existe depuis longtemps. Non.
C'est quoi l'utilité?
Rien, c'est nul. Mais c'est juste...
J'allais peut-être deviner, mais...
C'est pas nul.
Dogecoin.
Non, c'est pas nul. Mais genre, jamais j'investirais dedans. Mais je l'utilise souvent, par exemple, pour faire des transferts.
Tron.
Voilà, Tron. Tron. Tron, je vais pas investir dedans.
OK.
Mais par exemple, j'utilise... très souvent le réseau de Tron avant Polygon, j'utilisais énormément le réseau de Tron pour faire des transferts d'un endroit à l'autre avec presque aucun frais. Mais justement, quand tu venais plonger dans leur tokenomie, tu réalises très belle utilité, mais comment tu fais ton argent? Si tu fais pas d'argent et que tu n'as pas non plus un token qui se fait brûler, qui est bien déflatoire ou des choses comme ça, il va pas monter en valeur même s'il est utile. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Tandis qu'Ethereum, ils sont allés amener une utilité où les gens payent. Ils sont prêts à payer beaucoup pour pouvoir bâtir sur Ethereum. Alors, c'est aussi ces deux choses-là que tu veux regarder, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu regardes ça, mais oui, peut-être que c'est infini, mais c'est quoi l'utilité? C'est quoi l'équipe? C'est quoi le système derrière? Cela, c'est infini, mais ils se font brûler et il y a une équipe solide et il y a une utilité. Tandis que tu as d'autres projets, des fois, il y en a juste 100 000 et pourtant, c'est complètement nul. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste 100 000 tokens, que c'est bon. Puis il y en a d'autres qui en a juste 100 000, mais tu regardes leur utilité puis tu es comme, ouais, le but, c'est que ça soit une utilité limitée. Le but, c'est que certaines personnes utilisent ça et qu'après les autres soient obligés de payer pour pouvoir utiliser les services et tout. Alors c'est aussi des choses à regarder, parce que si tu m'amènes 1 milliard de tokens dans un projet avec une utilité faible, c'est chaud. Mais si tu m'amènes 1 milliard de tokens dans un projet où putain toute la planète va vouloir l'utiliser, c'est rien. Alors c'est là où tu dois venir justement combiner ça, la tokenomie avec ben, c'est quoi l'utilité et avec c'est quoi l'équipe. Tu vois, c'est quoi l'équipe. Par exemple, tu regardes certains projets, des fois, que c'est le cofondateur d'Ethereum, on en parlait en plus. C'est le cofondateur d'Ethereum qui a créé ce projet-là. Puis oui, il n'y a pas vraiment de limite, mais c'est un DAO. Donc, il faut quand même que la communauté vote pour faire des changements. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder où, ben là, après, il faut que tu prennes le temps d'aller lire le white paper, d'aller comprendre vraiment le projet. Parce que la tokenomie d'un projet est importante, c'est sûr. Mais tu ne peux pas juste regarder la tokenomie. C'est la tokenomie par rapport à plusieurs choses, dont deux choses super importantes, l'équipe et l'utilité.
Pour moi, honnêtement, après tout ça, un des points les plus importants aussi, c'est le roadmap et aussi la présence sociale d'un projet. Parce que je trouve que parfois, il y a des projets qui ont des super beaux... de super belles utilités, de belles compagnies, des bons fondateurs, mais ils n'arrivent pas à percer sur le marché. Mm-hmm. Et comme ils sont, on dirait, underground, c'est une bonne compagnie, il y a un énorme potentiel, mais personne ne te connaît, personne ne partage, personne ne s'investit et ils n'arrivent pas à percer. Malheureusement, ben, je trouve personnellement que ça serait difficile d'aller chercher des retours incroyables comparé à une autre compagnie qui a une vraiment présence sociale importante.
Absolument.
Et j'ai une question par rapport à l'utilité puis tokenomie. Est-ce que forcément, si la compagnie est bonne, elle a une solution, une utilité incroyable, est-ce que forcément le prix de leur token va aussi monter? Parce que selon moi, juste parce qu'une compagnie est bonne et une utilité est bonne, bah, ça ne veut pas nécessairement dire que leurs jetons seront autant utilisés.
Non, exact. Il faut que l'utilité soit bonne, que l'équipe soit bonne. Il faut que la tokenomie aussi soit excellente. Et après, comme tu dis, c'est une question de marketing. S'il y a vraiment une demande, qu'il y a une demande pour l'utiliser, et que, et que les gens savent, comme tu as dit avec le marketing, tout le monde sait. Par exemple, maintenant, si je dis je veux bâtir un projet, les premières choses que tu penses, c'est par exemple Polygon, Ethereum, peut-être Polkadot et tout ça. Même si tu as un meilleur projet, tu vas pas nécessairement y penser parce que c'est ceux-là qui sont en avant. Alors, c'est de réaliser, par exemple, l'utilité, mais c'est aussi voir qui est derrière. Quand je dis voir qui est derrière, c'est la communauté, littéralement, les clients purés, la communauté, tu vois. Il y a un petit projet là que j'ai vu récemment qui avait l'air intéressant, mais quand je l'ai regardé, j'ai réalisé que derrière, il y avait Samsung, Toyota et le gouvernement japonais. J'ai dit, ouais, pas beaucoup de clients, mais c'est des clients qui m'intéressent. Et à quel point, si eux sont satisfaits, juste avec leur réseau, ça peut grandir rapidement.
Est-ce que c'est sur Sam's Brain?
Le projet... En fait, ce projet-là est bâti sur un projet. C'est un layer 2. Ce layer 2, je ne l'ai pas mis sur... que je suis en train de parler, n'est pas sur Sam's Brain. Mais le layer 1 sur lequel il est bâti est sur Sam's Brain. Ouais.
C'est ça qui compte.
Ce qui est puissant de Sam's Brain, c'est, ça me fait penser à des erreurs que j'ai faites au début quand je n'avais pas d'éducation, justement, pour savoir comment bien analyser un projet, savoir quels projets vont être bons et profitables dans le futur. Mais... je suivais vraiment ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Fait que ceux qu'on entend le plus parler, c'est du Dogecoin, du Shiba, parce que c'est eux qui font des gros pump and dump, puis c'est eux qui créent, c'est lui qui, exemple, du hype, exactement, celui qui Elon Musk promouvoit souvent le Doge. Ben, j'ai fait des erreurs avec ces tokens-là parce que c'est eux que je connaissais, parce que j'avais pas accès à un Sam's Brain, j'avais pas d'éducation. J'ai fait exactement la même erreur aussi en bourse. Donc, je suis rentré dans un projet
que beaucoup de personnes parlaient.
Quoi, t'es rentré dans GameStop?
Non, pas GameStop, non, c'était Lion Électrique. J'aurais pu avoir une bonne position, mais j'avais pas l'éducation. Puis ça a créé cette erreur-là. Mais avec un Sam's Brain qui donne des idées d'entrée, de sortie, sérieusement, ça aurait complètement changé la game. Mais après ça, ben avec l'éducation, ben ça vient tout amener un autre.
Soyons honnêtes par rapport à ce que tu as dit. Si maintenant sur Dogecoin on met une bonne utilité, une bonne économie et une belle équipe derrière, est-ce que ça serait pas un projet potentiel avec le marketing qu'ils ont?
100%.
Ben oui.
100%. Il y avait Vitalik qui avait parlé de peut-être aller faire quelque chose avec Dogecoin pour le recoder différemment. Mon ami, si tu me crées une belle utilité avec tout d'un coup des gens énormes dans la crypto sévère derrière le projet qui savent ce qu'ils sont en train de faire, bro.
Et le nom, après,
avec le nom et le marketing. Coin,
puis voilà.
Avec ouais, le marketing ça. Qu'ils ont et tout, ça serait insane. C'est juste que c'est pas le cas pour l'instant.
Je suis curieux, j'ai.
Puis je vais juste faire une parenthèse pour finir, par exemple, par ce que tu me disais. C'est important de regarder les clients, mais surtout la grosseur des clients aussi. C'est pas parce que 1 milliard de personnes sont intéressées.
Moi, je suis pas si gros que ça.
Regarde combien de gens étaient intéressés à Dogecoin. Plein, un gros pourcentage étaient intéressés à Dogecoin. Mais c'était qui ces clients-là?
La masse.
Mm-hmm. Tandis que, comme je te disais, l'autre projet, présentement, ils ont 3 clients. Mais c'est le gouvernement japonais, Toyota, puis Samsung.
Puis ils sont plus gros que la masse.
Ouais, tout seul, ils sont plus gros que toute la masse, tu vois. Ouais, donc, c'est aussi de regarder la qualité des clients qui sont derrière.
Nice.
So, une chose, je voulais juste faire une parenthèse. Dans le sens du brain, c'est tellement détaillé par rapport à comment analyser un projet de crypto que tous les fois que Sam il fait des mises à jour, t'es exposé à comment Sam il fait pour analyser over and comme comment on dit over and over
encore et encore
à un point où que le but c'est que toi tu puisses le faire par toi-même 100%. Indépendamment d'une manière où que on t'aide littéralement à même devenir indépendant de nous, tu vois. C'est ça le but. Le but, c'est de t'aider à sortir de la Matrix, devenir indépendant. Puis, c'est ça que j'adore du Sam's Brain. Puis, je vais te poser une question, Sam. Quand tu fais les mises à jour par rapport à le Sam's Brain, ce soir, des fois, tu enlèves des cryptos parce que tu les remplaces par une nouvelle crypto.
Ce qui est très rare, mais oui.
Ouais, ou sinon, à l'intérieur, tu fais des mises à jour, que ce soit graphique ou par rapport à des explications. Ça serait quoi comme like how often aujourd'hui je parle juste en anglais mais comment souvent tu le fais ces mises à jour, est-ce que c'est à chaque semaine, chaque deux semaines?
Moi tous les jours presque, ben, je vais sur mes graphiques et je regarde ce qui se passe, je fais les mises à jour qui doivent être mises et je l'envoie, et quand je l'envoie ben, tu reçois une notification sur ton téléphone, les applications, le site web, le email, c'est impossible que tu le vois pas
à moins que t'habites sous une roche.
Ouais, c'est ça. Après, à quel point je fais les modifications, ça dépend que du marché. Si on tombe rapidement, mais ça peut être plus rapidement. Si on va vite à la hausse, ça peut être plus rapidement à la hausse. Ça, je peux pas. Je pourrais le changer à tous les 2 jours, comme ça peut rester la même chose pendant 2 semaines. Nous, on veut nos niveaux qui sont atteints, ça vient de nos niveaux, on rentre, on sort, on fait notre cash. Le but, c'est pas de timer le marché, c'est d'avoir les niveaux qui sont prêts. Si ça se fait en 3 jours, ça se fait en 3 jours, si ça se fait en 3 semaines, ça se fait en 3 semaines. Mmh. Ça dépend vraiment du marché.
J'ai une question pour toi, que je pense que ça pourrait être intéressant pour le monde, puis on pourrait terminer là-dessus. C'est quoi les sphères, en fait, que tu as déterminées pour te diversifier dans Sam's Brain?
Bon, alors premièrement, il y a plusieurs layer 1. Je voulais qu'il y ait quand même plusieurs projets qui sont des layer 1 qui ont donc leur propre blockchain. Là, parmi ces layer 1-là, ben, il y a des projets naturellement qui sont comme Ethereum, qui ont donc pour but d'utiliser des smart contracts ou des choses comme ça pour aider les développeurs à créer des dApps, hein, donc d'autres projets crypto. Après, j'ai des projets sur le supply chain, parce que ça, c'est extrêmement important. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est supply chain, allez lire. c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les grosses compagnies, surtout les multinationales qui font du transport de marchandises et tout. Donc, différents layer 1, contrats intelligents, justement pour des projets qui puissent développer leur DApps. Donc, on a supply chain, on a de la DeFi, on a des metaverses. on a des decks. Je suis littéralement en train de regarder dans ma tête, là. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, c'est quand même pas mal de blockchains différents. Je te dirais que... eux, c'est sur la blockchain d'Ethereum. Sur la blockchain d'Ethereum aussi. Sur la blockchain d'Ethereum. Il y en a genre 3 sur 10 qui sont sur la blockchain d'Ethereum. Hmm. 4. 4 sur 10 qui sont sur la blockchain d'Ethereum. Mais Ethereum est énorme. Fait que quand tu penses à ça...
Je me suis étouffé.
4 sur 10 dans la blockchain d'Ethereum, c'est rien. T'as donc les 6 autres projets qui ne sont pas sur la blockchain d'Ethereum, qui est leur propre blockchain.
Merveilleux. Merveilleux. Et si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec le plus de personnes possible. Comme vous savez déjà, on a pour but d'impacter le maximum de personnes à travers le monde, bien évidemment en français présentement, pour vous aider en entraide, devenir indépendant et libre. On se voit sur le prochain épisode. Ça va être quelque chose d'absolument drôle. Let's get it.
Let's get it.